Patrick, il est dans la surface des TV TCL chez Electrodépôt.
C'est clairement du TCL. 190,5 cm Google TV 4K Ultra HD à seulement 799€. Les prix bas chez Electrodépôt, bien sûr.
Oh, quelle qualité d'image! Oh, il rentre dans la zone avec son caddie!
Oui, il la met sur son caddie et c'est une passe décisive!
Passage en caisse, c'est une TV TCL à seulement 799€ chez Electrodépôt.
Vivez de grands moments chez Electrodépôt en magasin ou sur electrodépôt.fr avec TCL.
Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'Afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Merci d'avoir choisi RMC. Vous écoutez l'After, première radio de France à cette heure-ci, le premier podcast de France, bien évidemment, avec Daniel Riolo, Thibaut Leplat, avec Farid Boitelat, auteur du documentaire 450 grammes, le poids de la passion et l'enfer de ses parents qui veulent faire de leur progéniture un projet Mbappé. Un œil sur les scores et ça y est, jeu et première manche, Maroc 6-0 face au Congo désormais. Il reste un quart d'heure. Et le Portugal mène toujours 3-0 contre l'Irlande à 3 minutes de la fin. Toujours en direct sur YouTube, je vous rappelle qu'à 23h, les chapeaux, les défenseurs centraux avec vous tous au 32-16 et les drôles de dames. Mais on continue la discussion avec Farid. Donc, sur ce documentaire, est-ce que c'est un phénomène qui vraiment évolue de manière exponentielle, ces incidents des parents qui vont agresser des formateurs et comment tu l'expliques? Et puis aussi, comment on y répond justement? Parce qu'on le voit dans le documentaire, il y a des solutions, mais on a du mal à croire que ce soit des solutions durables, quoi.
Bah, disons que la problématique des parents, c'est la partie visible d'un problème qui est plus global dans le football. Quand je parle du football, je parle du football amateur, qui se met à un petit peu trop au service et regarde trop à travers le prisme du professionnalisme. Comme je le souligne dans le documentaire, sans trop spoiler les chiffres que j'ai intérieurs, la proportion de joueurs professionnels sur l'ensemble des licenciés en France, c'est 0,55%. Et pourtant,
0,05, je crois, non, même.
0,055%, ouais, c'est moins de 1%. Et pourtant, c'est à travers ce chiffre-là que tout le monde, les parents, les joueurs, les éducateurs, les clubs, alors, je vais peut-être pas dire les instances, mais disons que justement, ils ferment les yeux. C'est-à-dire qu'on regarde le football à travers ce prisme-là. Et forcément, quand on a cette posture de se dire que quand on est sur un terrain, on se met à rêver de devenir professionnel, que quand on est éducateur, on rêve qu'une seule chose, c'est de faire signer des joueurs pour qu'ils deviennent professionnels. Quand on est un président de club ou des dirigeants de club et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de se dire je vais faire signer des joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une manne d'argent pour les clubs. Quand on a un joueur qui signe professionnel, quand il y a un transfert, il y a des indemnités de formation, qui est une très belle démarche, mais finalement qui pervertit aussi un petit peu les choses.
Les mecs, ils veulent chercher la future pépite du coin, ils le mettent dans leur club.
On regarde que ça.
Plus les subventions baissent, donc voilà. Besoin de financer. D'accord, aussi tes éducateurs.
C'est ça.
C'est pas forcément au départ une mauvaise intention.
C'est ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde tire dans ce sens-là. Et que les clubs deviennent non pas des lieux de vie, mais des lieux de consommation. Tout le monde consomme sa séance pour devenir pro. Les éducateurs, ils se voient déjà entraîner, sans forcément parler des éducateurs, parce que c'est pareil. Dans le documentaire, j'essaye plus ou moins d'expliquer pourquoi on en arrive là. Parce que le problème des parents, c'est aussi les conséquences des dérives des clubs, les dérives des éducateurs, les dérives de tout ça. Et en réalité, je pense qu'il y aura des suites à donner à ce documentaire. Il y aura peut-être malheureusement d'autres épisodes. Mais en tout cas, c'est plus le constat de la violence des parents qui est la conséquence et l'épiphénomène d'autres choses.
Alors, pour moi, la discussion est intéressante et il faut distinguer plusieurs choses. Que des gens veulent s'en sortir par le biais du sport. Je vois pas de mal à ça, moi. Qu'on monte un projet, qu'on essaye et tout.
C'est large, le sport. Hein. Tu peux être avocat du sport, tu peux être podologue, journaliste sportif.
On le dit dans le documentaire,
Non, mais c'est ce que dit Ismaël, d'ailleurs, dans le...
Exactement.
Moi, je parle du petit champion.
Bien sûr.
La différence entre obsession et folie. La frontière, c'est, oui, à mon sens, le père qui met une tarte à l'entraîneur, pire un coup de couteau, tu l'as pas fait jouer, tu le mets pas dans de bonnes dispositions, tu lui gonfles la tête, tu fais venir des gens pour le taper, c'est toute cette violence du quotidien qui désormais a envahi notre football. Si tu gommes ça, entre obsession et folie, la frontière, je sais pas comment la déterminer, parce qu'aujourd'hui, tous les exemples de champions, je vais venir au tennis, mais ça existe dans le foot, avec l'exemple Thierry Henry, par exemple, mais dans ce cas-là, dans le tennis, il y a que des fous.
Bien sûr, mais tout le sport Steffi de
Graf
niveau.
Était une folle avec son père. Martina Hingis, c'était pareil.
André Agassi, la bio d'Agassi.
Sa bio est passionnante sur le sujet.
Père Williams,
la méthode Williams. Quand tu mettais ton môme dans l'académie Nick Bollettieri,
la méthode Williams,
c'était la pension du 19e siècle.
Daniel,
les
bon exemple, parce que à Croisé, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la méthode Williams. Là, on voit passer des messages qui disent « Ouais, très bon film ». Mais non, mais c'est une horreur, en fait.
Et c'est pas une horreur.
C'est ça le problème
aujourd'hui, les filles. Elles avaient un père qui était dans la revanche sociale.
Mais tout ça, leur histoire à elles.
N'empêche qu'il a écrit une histoire.
Ça peut pas être un modèle, Daniel. Ça peut pas être un modèle. Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'on présente ça comme étant un modèle.
Le problème, ce n'est pas d'être un modèle. Je suis en train de dire que c'est difficile de juger. Attends, tu laisses pas terminer, Thibaut. Le problème, c'est que je ne suis pas en train de dire, je porte pas un jugement sur, il est fou, il est pas fou, ou c'est un modèle, c'est pas un modèle. Lui, il a écrit son histoire comme ça. Si pour certains c'est un modèle, pourquoi pas? Et les filles aujourd'hui, ce gars-là a quand même façonné deux championnes extraordinaires.
Non, mais surtout là, il y a une énorme différence.
Qu'on soit d'accord ou pas avec sa façon de faire, l'histoire, elle est absolument fabuleuse. Et tout le monde le prenait pour un taré quand il a mis, quand il les a mis ses filles dans des académies. Les mecs le prenaient pour un fou.
Il y a quand même une principale différence.
La seule frontière, c'est quand tu frappes, quand on arrive à la violence.
Il y a le reste. Comment tu traites l'enfant, et puis il y a les agressions d'éducateurs. Dans le tennis, on n'en est pas là, en général.
Mais
on voit pas.
Mais tu plaisantes, Thibaut, mais je t'assure. Et là, on n'est pas dans des milieux défavorisés. C'est des milieux moyens et favorisés. Mais j'ai fait 10 ans, ça, moi. Mais même moi, on aurait pu me prendre pour un taré, parce que si tu veux construire.
Mais d'accord, j'ai pas vu aux infos un père de, tu vois,
tu vas pas peut-être pas avoir ça, mais on peut très bien juger taré. Moi, j'ai vu même moi, je crois qu'une fois, j'ai sorti mon fils d'un cours parce qu'il s'énervait, parce que quand tu construis cette espèce de projet dans lequel on te formate à 7 ou 8 ans en te disant, écoute, si tu veux vraiment y arriver, et vu que t'as des capacités, parce que t'as tout pour toi, parce que t'as commencé à jouer à 3 ans et demi, parce que moi je l'ai mis à 3 ans et demi, tu vois.
Ah ouais.
Et il adorait ça, et c'était machin, tout ça. Ben, si t'es pas dans le sacrifice permanent, on te dit à un moment, de toute façon, c'est un projet de famille. Donc, ça veut dire, toutes tes vacances, c'est autour d'un, il faut qu'il y ait un club ou un terrain pas loin. Il faut tout le temps jouer. Il faut perfectionner éventuellement avec des cours à côté. Le matos, ça coûte. Mais à un moment, c'est si t'es pas dans l'obsession, il y a pas d'issue en fait.
Donc t'as des gens qui sont complètement obsédés par le fait de faire 3 grilles de loto par semaine pour essayer de gagner. Pourtant, la proportion, tu as
raison.
La proportion de chance de gagner au final, elle est infime. Par contre, quand le slogan de la Française des Jeux, le slogan de la Française des Jeux, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance.
Parce qu'on est bercé en permanence, et je le mets en comparaison avec les films dont on nous abreuve sur Netflix et autres, les films des carrières de sportifs. On est abreuvé par ces récits où quelqu'un qui a un peu moins, qui a pas forcément l'esprit critique, et qui a pas forcément, qui connaît pas les ressorts de ces films-là, il se dit, bon, voilà, un tel, il était très pauvre, il a beaucoup travaillé, il a un rêve, il a eu un jour quelqu'un lui a donné la chance, il est arrivé, il est devenu milliardaire. C'est très facile de prendre le récit à l'envers.
Et ça se passe comment, Thibaut, en vrai?
Mais c'est pas comme ça, la vie, Daniel. C'est pas linéaire comme ça. C'est quoi l'histoire de Lionel Messi? C'est passé plein de choses.
Mais est-ce que Lionel Messi serait devenu modèle?
Qui ont été prêts à le mettre sous ordre?
C'est la première fois qu'on prenait un joueur de l'histoire. C'est à cause de Messi qu'ensuite est arrivé le projet Messi où chaque club voulait récupérer son joueur mineur. Mais c'est illégal. C'est pour ça que le Barça le faisait pas bien. C'est parce que c'était illégal.
Farid.
Messi serait devenu Messi sans projet Messi. Zidane serait devenu Zidane sans projet Zidane, et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour moi, il y a une catégorie de joueurs qui sont des intrinsèquement des champions nés.
Non, je suis pas d'accord avec ça.
Ah, écoute, moi j'en suis, intimement persuadé. Et c'est en mettant ça dans la tête des gens que justement on arrive à des dérives.
Aujourd'hui, la concurrence est tellement rude que si derrière tu n'as pas une forme d'obsession à la performance, machin, tu t'en sors pas. Et les déviances, là, en revanche, je ne défends pas, parce que les déviances que ça peut occasionner, justement, c'est que dans ce bain énorme de concurrence avec cette avidité qui est là tous les jours parce que c'est l'argent, le moteur, hein, là, ça donne les déviances.
Mais parce qu'on a oublié.
Je reste persuadé, Daniel, que si aujourd'hui, tout l'argent qui est dans le football n'existait plus et qu'on le mettait dans le volleyball, beaucoup seraient au volleyball. Et je reste persuadé que Zidane serait encore dans le football, Maradona serait encore dans le football et ainsi de suite. J'en suis intimement persuadé.
On n'est pas dans la même époque. On est encore dans l'artisanat.
Oui,
c'est le gars qui joue mieux que l'autre à Cannes.
C'est peut-être plus vrai aujourd'hui, c'est vrai.
Zidane, à son époque, à Bordeaux, jusqu'à ce qu'il arrive à la Juve, et encore même un peu à la Juve, je t'assure, il n'y a pas beaucoup d'efforts, Il y a juste son talent avec le ballon et on se dit, s'il se met pas un peu à courir, à bosser, à machin, ceci, bah, cela, tout,
mi-temps,
ça va être compliqué.
Alors, les gars,
il tenait qu'une mi-temps, c'était
on va pousser.
Chaud.
On a beaucoup d'appels au 32-16, donc on va pousser la discussion avec Farid. Tu peux rester encore un petit peu?
Bien sûr.
Bon, bah, voilà. Il y a beaucoup d'appels au 32-16.
Vous n'êtes
pas dans l'after. Et puis juste avant, on va prendre la direction de Rome. Aurélien Tiercin est sur place pour les championnats d'Europe. Kevin Mayer vient de terminer. JO ou pas JO?
JO, Thibaut, salut à tous. Salut. Enfin, il a terminé un décathlon. 4,55,99 au 1500. 8,476 points. Il fallait en faire 8,460. Donc, quasiment un génie du calcul. Cinquième en plus du décathlon. Il a perdu la médaille de bronze sur le 1500, mais on savait qu'il allait pas pousser la machine. Et puis, que des bonnes nouvelles aussi pour le clan français. Mackenson Gletti, son petit frère qui s'est entraîné, enfin, son petit frère du décathlon qui s'est entraîné avec lui à Montpellier, valide les minima. Et lui est en bronze pour ce décathlon européen. Un petit peu plus tôt, médaille d'argent sur 400 haies pour Louise Maraval qui bat son record perso, qui se rapproche un petit peu du record de France de Marie-José Pérec, et puis la médaille de bronze pour Thomas Gaugois, lui aussi un jeune triple sauteur de 23 ans. Ça fait désormais 12 médailles pour l'équipe de France, et notre Kevin National sera donc bien au Stade de France pour Paris 2024.
Merci Aurélien, bonne soirée, bye bye. Dans un instant, on continue la discussion. Tiens, juste petit spoil, Daniel, sur le projet Riolo Junior, il y a un rapport à Roland-Garros du coup?
Non.
Déception.
45.
Oui, petite pause.
Il y a d'autres choses importantes, intéressantes dans la vie.
Et on continue avec Daniel Riolo, avec Thibault Leplat, avec Farid Boisdelat. Et vous tous au 32-16. Dans un instant, Phoenix est avec nous.